BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va beaucoup parler d'informatique. Pas de télétravail sans VPN, sans matériel, sans hardware, sans bureautique. Qu'est-ce qu'on aurait fait pendant le confinement sans les DSI? Est-ce que ça les a fait changer de dimension? Est-ce qu'enfin on va les écouter vraiment? On posera cette question à Bernard Duverneuil, il est président du CIGREF et DSI d'Elior. Et puis à Caroline Apfel, elle est chasseuse de tête spécialisée pour Spencer Stuart. En deuxième partie d'émission, on parlera d'inclusion dans le secteur informatique avec Flora Thiébault, fondatrice d'Auticonsult, un cabinet de consultants qui n'emploie que des personnes autistes. Et vous allez voir que certaines entreprises du CAC 40 se les arrachent. Voilà, Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et ils sont deux cette semaine à nous accompagner, Bernard Duverneuil. Bonjour, vous êtes directeur du digital et des systèmes d'information d'Elior et président du CIGREF. Caroline Apfel, bonjour. Vous êtes consultante à Spencer Stuart et je dis chasseuse de tête, mais vous n'aimez pas ce terme. Vous êtes, dites-moi le terme en entier.
Je fais du conseil en recrutement de cadres dirigeants par approche directe.
Voilà, spécialisée dans l'informatique.
Absolument.
Alors, qu'est-ce qu'on aurait fait sans les services informatiques pendant le confinement? On n'aurait pas réussi à travailler. Certains ont sauvé des activités, d'autres se sont transformés en assistants informatiques personnels. On leur a demandé une réactivité folle, des délais pas possibles, une mobilisation complètement dingue. Dans quel état d'esprit, Bernard Duverneuil, vous sortez, vous qui êtes à la tête des systèmes d'information d'Elior, vous sortez du confinement dans quel état d'esprit?
Je crois que ce qui a été visible pour toute l'entreprise et notamment la direction générale, c'est que les systèmes d'information étaient absolument clés pour le fonctionnement de l'entreprise, que les équipes informatiques avaient su se mobiliser énormément pour mettre en place les systèmes pour le télétravail de façon massive. Donc ça a été fait quasiment du jour au lendemain. Et beaucoup d'entreprises ont eu cette expérience avec une valorisation des équipes informatiques qui ont montré qu'elles savaient s'adapter très rapidement à ce type d'enjeux.
Caroline Apfel, est-ce qu'il y a des profils qui se sont révélés pendant cette période?
Oui, absolument, parce que globalement, la fonction est considérée une fonction support à ses back-office. Donc déjà, on a entendu parler des DSI, de leurs équipes. Et dans le scope informatique, vous avez notamment des équipes dans ce qu'on appelle les couches basses d'infrastructures qui sont rarement mises en avant, je parle sous votre contrôle, qui pour le coup étaient en première ligne de par l'importance du réseau, de la connectivité, de pouvoir connecter tout le monde en télétravail.
Alors, est-ce que c'est un monde idéal quand moi j'imagine qu'à la fin du confinement on a réuni les directions des services informatiques, tous ceux qui ont travaillé dur pendant le confinement, qu'on a dit bon, comment on réorganise le travail demain pour revaloriser ces segments métiers, pour est-ce que le confinement est une période de rupture pour les directions informatiques?
Alors rupture, le mot est certainement fort. C'est une période qui a permis de redonner de la visibilité au travail des informaticiens. Les investissements qui ont été réalisés aussi dans le domaine, on voit bien que c'était extrêmement utile. Donc ça donne beaucoup plus de visibilité, de crédibilité et peut-être un peu plus de légitimité.
Parce que Caroline Apfel, parfois, le service informatique, c'est celui qui empêche d'avancer. C'est celui qui dit il faudrait faire tel investissement, vous voulez pas, ça voilà. Marchera pas.
Parce qu'on entend quand même de beaucoup de dirigeants. C'est vrai que c'est une fonction mal aimée qui a été, qui est encore dans beaucoup d'entreprises considérée comme une fonction back-office. Un centre de coût et une fonction back-office. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de retours de dirigeants de la fonction qui m'ont dit qu'ils ont eu
des révélations
ou même des remerciements publics, c'est-à-dire en comité de direction, pour une première fois, une vraie reconnaissance du travail accompli. Pas seulement parce qu'ils ont réussi à faire basculer tout le monde quasiment du jour au lendemain en télétravail, mais parce que les dirigeants, les entreprises ont finalement pris conscience de l'importance et des investissements et de leurs fonctions pour faire tourner leur business.
Alors, il y a évidemment les rapports avec les dirigeants, la reconnaissance par le chef, etc. Mais est-ce qu'avec les salariés, de manière générale, les rapports ont changé? Parce que je disais, il y a certains membres du service informatique qui sont transformés en assistants personnels, vraiment en aidant au quotidien certains salariés à travailler.
Je crois que c'était assez général quand j'en discute avec tous mes collègues du CIGREF, DSI. Effectivement, tous se sont mobilisés, toutes leurs équipes se sont mobilisées pour que l'ensemble des salariés puissent trouver un moyen de communication et de collaboration, ce qui n'était pas forcément le cas. Beaucoup pensaient que ça ne serait pas possible. Beaucoup dans les directions générales ou métiers pensaient qu'on ne pourrait pas fonctionner comme ça en télétravail. Eh bien si, ça a été fait. Alors c'est une découverte à la fois parce que les outils informatiques ont été appropriés par les collaborateurs eux-mêmes, mais aussi parce que les collaborateurs ont trouvé des idées. On a aussi fait confiance aux équipes pour mettre en place des systèmes numériques de workflow, de validation des factures, etc., qui n'existaient pas dans certains cas. Et tout ça a fini par se mettre en place assez naturellement.
Caroline Appel.
Pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que, enfin, moi, je l'ai surtout entendu des dirigeants eux-mêmes, mais les dirigeants de ces fonctions ont reconnu cette forte mobilisation pour l'ensemble des équipes. C'est-à-dire, c'est pas seulement le DSI ou la CDO qui a été mobilisé, Chief Digital Officer qui a été mobilisé, mais ça a été l'ensemble des équipes. Des gens qui sont dans les sujets d'infrastructure, dans la cybersécurité, dans le domaine des applications. Donc c'est vrai, je pense que ça a vraiment toucher tout le monde.
Mais il y a eu un espèce de travail de pédagogie quand même de l'ensemble des services d'informatique, d'expliquer les outils. Il y avait parfois des outils qui existaient mais qui n'étaient pas utilisés. Alors vous allez détester ce que je vais dire, c'est-à-dire que les gens dans le hardware, ceux justement qui utilisent qui travaillent dans l'informatique dure, on imagine toujours dans la caricature le boutonneux dans son coin qui a des problèmes de communication, ils se retrouvent aujourd'hui à expliquer à Michel ou à Jean-Pierre, alors tu vas faire ça, voilà comment tu vas travailler, voilà ce que tu vas utiliser, c'était pas son métier à la base.
Alors, c'est le métier de beaucoup d'équipes informatiques au service des utilisateurs déjà. Ce qui a été probablement nouveau, c'est que toutes les équipes des services informatiques se sont mobilisées auprès des collaborateurs pour qu'ils s'approprient les outils. Donc ça peut être augmenté le niveau de service, mais on a déjà des équipes qui sont dédiées aux services en interne pour les utilisateurs.
Donc le confinement, c'est pas une révolution. Au pire, c'est une révélation de l'utilité, parce qu'évidemment, ils étaient utiles, mais en tout cas, d'un certain rôle, on les écoute plus. Est-ce que sur l'attractivité des métiers, aujourd'hui, ça change quelque chose?
Bonne question. Le temps nous le dira. Mais pour la période a été révélatrice et donc toute révélation est bonne à prendre dans le sens où on a finalement compris pour beaucoup de personnes dans l'entreprise quel est le métier et de l'informaticien, des gens qui sont dans le numérique parce que ça a été très concret, ils l'ont vu et touché du doigt. Donc voilà, le temps nous le dira, mais on voit qu'immédiatement il y a quand même eu une prise de conscience et une compréhension de ces métiers pour beaucoup obscurs et considérés encore complètement back-office.
Est-ce qu'il va y avoir, par exemple, chez Lior, une revalorisation des carrières? Est-ce qu'il y a des jeunes informaticiens qui viennent vous voir en disant « J'ai été excellent pendant le confinement, je crois que je mériterai une prime ».
Alors ça se traitera chez Lior, mais d'une manière générale, parce que je suis aussi plutôt là pour le CIGREF, sur les collaborateurs en général, je pense que ça va donner une certaine visibilité en interne. En externe, peut-être un peu plus d'attractivité de nos métiers, parce que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas justement des profils caricaturaux, boutonneux et très arrière-boutique, mais beaucoup plus au service de l'entreprise, au service des utilisateurs. Et puis il faut bien voir aussi que toute la partie digitale, c'est aussi une partie qui a continué de fonctionner et même de continuer à rapporter du chiffre d'affaires parce que le e-commerce a continué de fonctionner à plein. Et ça, c'est aussi les équipes informatiques qui sont derrière ces sites web et ces sites de commerce.
Pour vous, la notion de hardware et de software n'a pas de sens?
Alors, la frontière est de plus en plus ténue. Donc, vous avez un mix des deux. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder la convergence entre le digital et le système d'information. Aujourd'hui, c'est quasiment les deux faces d'une même pièce où vous avez le digital qui est plus orienté business et qui va, par exemple, piloter la relation avec le consommateur, qui va travailler sur les sites de e-commerce ou sur les applications mobiles, et puis les systèmes d'information qui vont être derrière, qui fournissent la donnée, qui l'intègrent, qui la maintiennent dans un niveau de sécurité. Et ces deux univers-là, aujourd'hui, se sont complètement rapprochés. Mmh. Et de plus en plus, du reste de DSI, sont à la fois en charge du digital et des systèmes d'information. Et ça, je pense que c'est une tendance qui se poursuit.
Qui est là pour durer.
Donc les cools qui bossent sur des applis et les geeks qui bossent avec des claviers d'ordinateur, c'est pour les films.
C'est, je pense, en effet, beaucoup le mythe historique ou l'histoire, mais je suis tout à fait d'accord. C'est la frontière. Il n'y a plus de raison d'avoir de frontières. C'est-à-dire, il y a un sujet commun. Comment est-ce qu'on fait tourner un système d'information dans toute sa complexité? Il y a du front, il y a du back, il y a des infrastructures, il y a tous ces sujets-là. Et c'est une seule et même personne aujourd'hui qui prend l'ensemble.
Et aujourd'hui, vous pensez que dans la tête des jeunes, il y a encore cette image, alors peut-être véhiculée par les médias à tort, hein, mais par le cinéma, par les médias, que l'image du digital, du numérique, des services informatiques n'est pas à la hauteur de ce qu'elle peut offrir en termes de carrière.
Ça serait plus au DSI d'y répondre, mais j'ai beaucoup entendu de leur part leur difficulté à recruter. Alors, moi, je recrute au niveau des cadres dirigeants, mais vous avez tous quand même eu ces dernières années quelques difficultés à recruter en sortie d'école. Donc, c'est pas évident.
Alors, il y a une vraie tension sur les métiers de l'informatique. Il est difficile de recruter. Les écoles fournissent bon nombre d'ingénieurs ou de techniciens, mais avec des perspectives de carrière qui, visiblement, ne satisfont pas complètement les jeunes. Donc, on a une tension sur beaucoup de ces métiers et certains sont très, très recherchés, en particulier sur l'architecture ou sur la sécurité. Mmh. Mais ce que j'espère, c'est qu'on aura de plus en plus d'attractions. On travaille beaucoup avec les grandes écoles sur le sujet. Et on a besoin, aujourd'hui, c'est à l'échelle européenne, de dizaines, voire de centaines de milliers d'informaticiens. Donc à terme, on a une vraie pénurie. Tant qu'on peut avoir des gens qui bougent d'une société à l'autre, on arrive à combler un petit peu les trous.
Mais là, c'est un vrai appel qu'il faut faire parce que on annonce quand même un marasme sur l'emploi des jeunes en septembre extrêmement violent. Vous dites les services informatiques embauchent, cherchent. C'est un appel aux jeunes qu'il faut faire là.
Alors oui, sur le long terme. Aujourd'hui, avec la crise économique qui se profile, ce sera difficile aussi pour les entreprises de recruter autant d'informaticiens. Donc, il va y avoir un passage difficile et je pense que la reprise sera là d'ici un an pour l'ensemble des informaticiens et on retrouvera ce niveau de tension extrême qu'on a connu juste avant la période Covid, mais qui, pour l'instant, est un peu incertaine. En tout cas,
nous, dans les entreprises qu'on a reçues ici, globalement, effectivement, il y a une stagnation des embauches, mais il y a toujours quand même une jauge de recrutement qui est prévue. Donc, certes, ça se calme, on est moins sur la tension, mais il y a toujours... vous recrutez toujours.
Absolument. On recrute toujours, on a... L'activité est un petit peu ralentie, mais on continue à recruter.
Un point sur les sujets de diversité, sur les carrières des femmes. Il y a de moins en moins de femmes ingénieures, notamment dans les filières informatiques. Qu'est-ce qui fait qu'elles sortent de ce type de filière, Bernard Duverneuil ?
Déjà, l'ensemble des filières scientifiques sont peu à peu délaissées par les jeunes filles. Donc, au CIGREF, on a une action assez forte qui s'appelle Femmes Numériques avec d'autres associations. On est très nombreux à s'être mobilisés sur le sujet pour avoir de plus en plus de jeunes filles et de femmes parce que ça se détermine probablement au collège ou au lycée. Ensuite, les filières scientifiques, encore plus dans les filières technologiques et informatiques. Donc, on a un travail de fond à opérer. Alors, pourquoi les jeunes filles, aujourd'hui, ne s'intéressent pas à ces filières-là, alors que on a des métiers qui sont tout à fait propices aux hommes comme aux femmes, et c'est pas le caractère boutonneux qui...
Là, il faut que vous fassiez comme
comme le meilleur pâtissier, quoi. C'est-à-dire que pour revaloriser les carrières dans la restauration, bah, on fait de la télé-réalité, il faut faire pareil. Hein.
Le top informatique.
Bah, oui, bah, évidemment, c'est ça qu'il faut faire pour attirer les jeunes, puisque ça se joue au collège ou au lycée, ça se joue à la télévision, au
c'est
cinéma.
Bah, c'est là
c'est
où
dans l'imaginaire, il n'y a pas de.
Mais c'est là où l'avènement du numérique, en tout cas de mon point de vue, a fait ressortir que dans les métiers du numérique, il n'y a pas que des métiers pour les ingénieurs. Mmh. Et donc je pense que. Oui, en effet, statistiquement, moins de jeunes filles se tournent vers les métiers d'ingénieurs. Mais globalement, on constate que les métiers du numérique continuent à attirer les femmes. Donc j'espère qu'avec le temps, on retrouvera un équilibre. En tout cas, que ce soit le CIGREF, que ce soit un cabinet comme le nôtre ou d'autres intermédiaires, on y travaille parce que ça n'a pas de sens.
Mais quel est l'obstacle quand vous allez dans les lycées, quand vous essayez de convaincre sur les filières numériques, quel est l'obstacle? Qu'est-ce qu'elles répondent, les jeunes filles?
Je crois que c'est une vraie méconnaissance de ce que sont les métiers des systèmes d'information et du numérique en général. Ouais. Et je pense que Caroline a absolument raison. Mmh. Il faut montrer que certaines filières, certaines professions dans le domaine du numérique sont tout à fait compatibles.
Elles sont ouvertes à tous.
Hein. Et pas du tout à l'image que se fait le grand public de l'informaticien.
Donc il vous faut des stars pour montrer qu'il y a des stars dans les DSI, par exemple. Mmh. Est-ce qu'il y a des profils spécifiquement qui sont sortis du lot dans le confinement? On parlait de cybersécurité, mais aussi de tous ceux qui ont travaillé sur l'organisation du travail.
Il y a eu les sujets de cyber qui sont sortis du lot. Il y a les gens qui ont travaillé sur des fonctions support, soutien,
les outils de collaboration
et ce genre de choses. Donc oui,
qui n'étaient pas forcément les stars de l'informatique avant, mais là on a.
Oui, parce qu'historiquement c'était plutôt la bureautique. Donc aujourd'hui on voit bien qu'il s'agit de travailler avec les outils de collaboration, la vidéoconférence, les outils de partage, et ça c'est un tout petit peu plus visible. Que, évidemment, une suite bureautique.
Mais je trouve que globalement, cette crise a permis de faire, de montrer, de redorer le blason de la fonction en général, et notamment des métiers des DSI et des dirigeants dans la fonction. Donc c'est global, avec peut-être quelques spécialités qui étaient complètement méconnues, dont on parle aujourd'hui.
Et ben on restera sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus parler avec nous des services informatiques. On continue cette émission en essayant de faire mieux ensemble avec notre invitée d'après qui est Flora Thiébaut, fondatrice d'Auticonsult.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on continue de parler des services informatiques et d'inclusion. Je suis avec Flora Thiébaut. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice d'Auticonsult. C'est comme Altran, mais spécialisé dans l'autisme. C'est ça?
C'est
un cabinet de consulting.
Voilà, le consulting en informatique, en tech, développement, data, cybersécurité, assurance qualité. Et tous nos consultants sont sur le spectre de l'autisme.
Quel est le sujet de l'autisme et du monde du travail? Il y a un problème social, de communication, mais quel est le problème exact?
Déjà, c'est des difficultés d'adaptation au process de recrutement ordinaire qui passe pour beaucoup par l'échange et la capacité à vendre ses propres compétences. À partir du moment où une des difficultés principales des personnes sur le spectre de l'autisme à s'intégrer à un niveau des études, du monde du travail, c'est justement de l'ordre social et communicationnel. Ils ont déjà, de prime abord, une forme de handicap en se positionnant dans un entretien d'embauche.
Donc quand ils sont en entretien, ils sont incapables de rentrer dans le moule très précis, les règles, les cadres, ça ils n'y arrivent pas.
Voilà, on sait qu'il y a quand même des règles implicites à l'entretien d'embauche et ce sont des personnes qui vont avoir des difficultés à inférer ce que la personne en face d'eux attend d'eux. Donc ils ne vont pas adapter leur réponse en fonction de leur interlocuteur.
Donc, ils sont sans filtre en fait.
Ils sont sans filtre.
Et résultat, les chiffres sont énormes. On est à plus de 70% de chômage chez les adultes autistes. Ce sont des chiffres européens. Quelle est votre idée quand vous créez votre cabinet spécialisé? Vous vous dites, c'est juste un problème de coaching?
Non, pas particulièrement. C'est aussi c'est un problème d'accompagnement individuel parce qu'il y a aussi la gestion du stress quand on a été confronté à pas mal d'échecs, à pas mal de difficultés parce que méconnu, mécompris en tant que personne autiste à l'école, dans les études. Il y a des grosses difficultés pour certains à gérer la peur de l'échec. Donc il y a cet accompagnement individuel qui est important évidemment, mais je pense qu'il y a beaucoup aussi l'adaptation des mentalités. Faire changer les états d'esprit, faire changer, convaincre les gens que l'habit ne fait pas le moine et que c'est pas parce qu'une personne ne communique pas sur ses compétences de manière ordinaire et très enjolivant presque la réalité.
Ça, c'est le monde du travail.
Ça, c'est
toujours celui qui
parle
le plus fort qui gagne.
Exactement. Donc, faire changer les mentalités là-dessus et faire mieux comprendre aussi quelles sont les particularités des personnes autistes parce qu'elles ont aussi des forces. Des différences qui sont des forces dans le monde de l'emploi, des forces cognitives, et aussi à un niveau de la communication, toutes les recommandations qu'on va faire à nos clients pour s'adapter à leur autisme, c'est-à-dire éviter l'implicite, être un peu justement droit au but, clair, straightforward, confirmer les informations importantes à l'écrit. Ce sont des recommandations à un niveau de la communication en équipe qui bénéficient à tous.
Ce qui veut dire que quand vous accompagnez une personne atteinte d'autisme au sein de l'entreprise, vous faites un coaching de l'ensemble de l'équipe qui va travailler avec lui également.
C'est ça. On fait ce qu'on appelle une sensibilisation. C'est une rencontre de toutes les personnes qui vont être amenées à échanger avec notre consultant. On la prépare en binôme, le coach et le consultant. Et ils vont faire donc une intervention qui va durer à peu près une heure, un peu plus de temps en temps, et qui permettent non seulement de faire tomber un peu les idées reçues sur l'autisme en général, mais aussi, surtout, d'aborder les particularités de cet individu.
Le recruté n'est pas là à ce moment-là.
Si, si.
Si, il est là.
Il est là, le consultant est là. Enfin, on lui laisse le choix. La plupart du temps, il va être là. La plupart du temps, il va intervenir auprès du coach pour parler de ses propres particularités, ses propres forces, ses besoins aussi dans le cadre d'une collaboration avec des équipes, parce qu'il aura été préparé ensemble. Cette sensibilisation a été préparée
mais
ensemble avec le coach.
Mais quand même. Enfin, il se... c'est pas
ah oui, mais c'est pas simple.
Surtout quand on
mais
arrive dans bénéfique. Une entreprise où en fait on essaye de faire le contraire en général, un peu de cacher qui on est, de s'intégrer, voilà. Là on fait le contraire.
Mais moi je suis persuadée, je sais que je suis pas la seule, que si on faisait un petit peu plus ça, être plus transparent sur nos forces, nos domaines d'appétence, et les domaines sur lesquels on a moins d'appétence et sur lesquels on se retrouve plus en difficulté, on rétablirait un certain équilibre parce qu'il y a de la diversité dans chaque équipe. Donc pouvoir mettre en valeur les forces de quelqu'un et lui apporter de l'aide, une complémentarité sur les sujets sur lesquels il est moins pointu, finalement ça donne un dynamisme à l'équipe qui est très complémentaire, où elle se tire vers le haut, et surtout on est plus nous-mêmes sur le poste de travail.
Mais est-ce que, du coup, les personnes que vous accompagnez au quotidien, au départ, quand elles ont postulé pour n'importe quel travail, elles se sont outées? Elles ont forcément dit « je suis autiste » ou elles ont commencé par peut-être essayer de le cacher et ça n'a pas fonctionné?
Déjà, la plupart de nos consultants ont été diagnostiqués sur le tard au cours de leurs études supérieures ou dans le cadre d'échecs professionnels, de burn-out. Parfois, ils ont déjà travaillé. En fait, on a sur 23 consultants, on n'en a qu'un seul qui était déjà en poste avant. Enfin, deux, mais le deuxième était livreur de pain bio en ayant un diplôme d'ingénieur. Donc, il y a quand même... on est assez représentatif des chiffres chez Auticonsult en termes de chômage. Et pour la plupart, oui, ils allaient essayer de cacher leur autisme ou le dire, mais dans tous les cas, ne pas recevoir en général l'accompagnement et la sensibilisation des équipes nécessaires et donc dépenser beaucoup d'énergie à essayer de cacher, à essayer de compenser leurs difficultés à un niveau social, se forcer à participer à des événements sociaux qui les épuisent en pleine semaine et finalement donc prendre cette énergie-là sur leurs compétences réelles et celles pour lesquelles on les a...
Ils s'épuisent à rentrer dans le moule, en fait.
Voilà, ils s'épuisent à rentrer dans le moule. Donc, faire preuve d'un peu d'ouverture d'esprit, de flexibilité et de sur-mesure dans le cadre du travail, ça leur permet de développer vraiment leur plein potentiel pour le poste pour lequel on les a employés.
Et alors, justement, sur quel type de poste? Vous avez des personnes qui sont très diplômées, vous l'avez dit, des masters, vous avez même des docteurs dans vos équipes. Sur quel poste ils sont particulièrement, ils excellent?
Alors, il y a des compétences dans tous les domaines chez les personnes autistes, vraiment.
Mais dans l'informatique particulièrement?
Dans l'informatique, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les personnes autistes peuvent elles-mêmes s'orienter vers l'informatique ou pour lesquelles elles sont particulièrement recherchées. C'est parce que leur force spécifiquement autistique a un fort attachement aux détails, un esprit logique, une capacité un peu malgré eux à se concentrer sur les faits, sur le concret, et non pas sur le social, l'hypothétique. C'est des forces qui sont très très valorisées dans le monde des techs en général. Ensuite, c'est aussi un monde où, en général, il y a pas mal de personnes qui ne sont pas très loin du spectre autistique, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes qui, elles-mêmes, préfèrent éviter la communication, le social à outrance et sont un petit peu plus portées sur la technologie, le concret. Donc, c'est à des environnements qui sont un peu plus naturellement autism-friendly aussi. Nous, pour le moment, on a une majorité de missions dans la data et le développement chez des grands clients du CAC 40, comme Air Liquide, Airbus ou EDF, pardon. Et on a aussi du coup une demande croissante, vous en avez parlé un petit peu avant, sur la cybersécurité, oui, sur laquelle on a quelques profils, et l'assurance qualité, le test de logiciel. Donc ça, c'est des domaines sur lesquels nos consultants excellent.
Et vous allez ouvrir sur d'autres secteurs?
Alors, on espère se développer sur des secteurs en dehors des techs qui sont la finance et la comptabilité, par exemple, dans les années à venir, oui.
Merci beaucoup, Floria Thiébaud, fondatrice d'Auticonsult, d'avoir été avec nous. Ne cherchez pas à rentrer dans le moule à tout prix. Cassez le moule, en fait, plutôt. Ne vous forcez pas trop. Ça sera notre mot de la fin. Happy Boulot, le MAG, c'est terminé pour cette semaine. Je vous souhaite un très bon week-end sur BFM Business.
BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte.